débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Est-ce que ces deux mots sont antinomiques, Europe et social? On en parle à l'occasion d'un sommet social européen qui se déroulait ce vendredi à Göteborg en Suède, en présence des 28. Alors pour ces derniers, il s'agissait de signer un socle européen des droits sociaux comportant une vingtaine de principes qui avaient été mis en place par la Commission européenne dirigée par Jean-Claude Juncker, mais des principes non contraignants. Ce qui a fait dire à beaucoup eh bien, que ce sommet, ce vendredi, était surtout symbolique. Et ce qui amène cette question qui est au cœur de notre débat ce soir, est-ce que l'Europe sociale est réalisable ou est-ce uniquement une histoire de posture politicienne? Soyez les bienvenus. Et pour en débattre, nos deux invités à mes côtés en studio, Henri Sterdignac, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, également co-auteur de l'ouvrage « Faut-il une Europe plus sociale ?» Et puis en ligne depuis Bruxelles, André Sapir, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur à l'Institut Bruegel, professeur d'économie européenne à l'Université libre de Bruxelles. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation de RFI. Alors d'abord, je voudrais savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Europe sociale? On commence avec vous, Henri Sterdignac.
Ça a beaucoup de significations. On peut donner deux grandes significations. La première idée, ça consiste à dire que l'Europe, petit à petit, doit faire converger les pays vers le haut. Et petit à petit imposer aux pays des normes de plus en plus généreuses en ce qui concerne le droit du travail, la protection sociale, le droit du travail. Voilà. Donc ça, c'est une première idée. Une seconde idée, c'est qu'il faudrait uniformiser à l'échelle de l'Europe l'ensemble de la protection sociale. Mais là, il y a beaucoup plus de réticences.
André Sapir, est-ce que vous partagez la même définition d'une Europe sociale?
Mais bon, je partage, disons, la première partie, l'idée d'une convergence. C'est une idée qui était présente à la création de l'Union européenne. C'est bien sûr une bonne idée. C'est une idée qui est aussi pas très très facile à mettre en œuvre, parce qu'aujourd'hui on a des très, très grandes différences entre les États membres, mais quand même l'idée de la convergence est, je pense, une bonne idée. À partir du moment où on parle d'uniformisation, là on voit bien que ça devient problématique, parce que les pays qui sont les plus avancés en termes de normes sociales, on va dire, disons, les pays scandinaves, ils veulent pas entendre parler d'uniformisation, parce que pour eux, ça risquerait d'être uniformisation vers le bas. Et pour les pays qui sont très peu avancés, certains pays de l'Est, bon, ils ont peur qu'une uniformisation, bien sûr souhaitable en principe, si on les aidait, ça risque de les rendre non compétitifs. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire, mais l'uniformisation, je dirais que ça n'est pas un terme à utiliser dans ce domaine.
André Sterdignac, ça vous fait peur également le mot uniformisation quand on parle d'Europe sociale? Ça nivelle vers le bas?
Ben c'est le risque. Hein. Il faut bien voir que les pays européens ont des systèmes qui sont très très différents et qui sont très difficiles à uniformiser. Et donc, par exemple, vous prenez les retraites, tous les pays, chaque pays a son système, et dire, bon, évidemment, le problème, c'est qu'en même temps, il y a de plus en plus d'entreprises européennes, il y a de plus en plus de gens qui vont travailler dans un pays européen qui n'est pas le leur, donc on aimerait une certaine uniformisation, mais en même temps, avec des systèmes très différents, on ne sait pas faire. C'est pour ça que c'est un sujet difficile.
Si on n'uniformise pas, comment est-ce qu'on peut parvenir à une Europe plus sociale en s'entendant tous les uns les autres?
Eh ben, comme on fait avec le socle, c'est-à-dire on demande à tous les pays de respecter certaines normes, et petit à petit, on va essayer de faire monter les normes. On va dire à tous les pays, par exemple, vous ne devez pas avoir plus de 10% d'enfants pauvres. On va dire à tous les pays, vous devez avoir un salaire minimum qui représente au départ 50% du salaire moyen. Et petit à petit, on va essayer de faire monter les normes, en sachant que, naturellement, ben, on reste l'Europe. On a la Bulgarie et puis on a l'Allemagne, c'est pas du tout le même niveau de vie.
André Sapir, il y a Henri Sterdinien qui vient d'évoquer le socle social donc mis en place par Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. C'était au printemps de cette année. Socle social qui énonce une vingtaine de grands principes qui sont organisés autour de trois thèmes. Même opportunité d'accès pour tous au marché du travail, conditions de travail équitables et une protection sociale plus inclusive. Qu'est-ce que vous en pensez de ce projet de Jean-Claude Juncker? Est-ce qu'il va véritablement dans le sens d'une Europe plus sociale?
Donc, première chose, ça n'est plus un projet, c'est le document qui a été signé aujourd'hui par les 28 États et de gouvernement. Donc, les principes, effectivement, organisés, comme vous venez de le dire, en trois thèmes. Je pense, quand on lit ce document, quand on lit les principes, on ne peut que se féliciter.
Vous dites que ce n'est plus un projet. Cependant, les propositions du socle social doivent maintenant être adoptées par le Conseil, par le Parlement européen. Donc, on n'en est pas encore à ce que ce soit une réalité dans les États membres.
Alors, non, une réalité. Donc, ce sont des principes. Ce ne sont pas des éléments qui sont, comme vous l'avez dit en introduction, ils ne sont pas contraignants, mais ce sont des principes auxquels les 28 chefs d'État et de gouvernement ont adhéré aujourd'hui en signant ce document. Et donc maintenant, ce sont aux États à mettre en œuvre. Il n'y a pas réellement ici d'instrument européen, si ce n'est qu'il y a un engagement de la part de la Commission européenne qui fait de manière annuelle une évaluation des politiques économiques et des politiques économiques et sociales des États membres, d'utiliser ces principes dans les recommandations que la Commission fait aux États membres.
Vous dites que c'est donc maintenant aux États membres de trancher. Vous regrettez que la Commission européenne n'ait pas davantage d'autorité sur ces questions sociales pour imposer justement, par exemple, ce socle social ?
Alors, est-ce qu'on peut regretter ? Bon, moi, je suis plutôt de l'avis d'Henri Sterdinien, qui est le fait qu'on doit quand même ouvrir les yeux grands et se rendre compte que les 28 modèles sociaux européens sont extrêmement, extrêmement différents. Et donc, étant donné cette situation, on ne peut pas faire beaucoup plus, me semble-t-il, que d'avoir dans un domaine ou de l'autre une norme, et de faire en sorte que cette norme, qui est une norme souhaitable, qui est un principe, mais pas contraignante, que cette norme soit effectivement respectée par les États membres.
Henri Sterdinien, un socle social non contraignant, est-ce que finalement, ça revient pas finalement à une posture politicienne de la part de Jean-Claude Juncker, en disant, bah voilà, on propose des choses, mais de toute façon, c'est à vous les États membres après de décider un petit peu ces grands principes et de les imposer ou pas chez vous?
Oui, enfin, un autre problème qu'on peut dire, c'est qu'il y a une contradiction, bien sûr, entre dire on va promouvoir l'Europe sociale, et puis de l'autre, un certain nombre de politiques qui sont mises en œuvre par ailleurs. D'un côté, on dit, ben, il faut développer la protection sociale, tout le monde a droit à être bien protégé contre la vieillesse, la maladie, et de l'autre, on impose des politiques de restriction des dépenses publiques qui se traduisent dans un certain nombre de pays, effectivement, à des baisses de dépenses sociales. Il suffit de penser à la Grèce. On a imposé à la Grèce des mesures qui font que chaque Grec n'a plus actuellement une assurance maladie. Et par ailleurs, on a un certain nombre de décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui empêche, qui met à mal la protection des travailleurs dans un certain nombre de pays, en particulier pour ce qui est du salaire minimum. Et donc, bon, disons, ce serait bien que la Commission et les chefs d'État, effectivement, prennent ce document au sérieux et qu'ils l'appliquent effectivement dans les décisions précises qu'ils vont prendre dans les mois à venir.
La Commission ou les chefs d'État, les institutions européennes ou les États membres, qui doit avoir la main? Parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt les États membres, ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous regrettez le fait que, justement, les institutions européennes n'en fassent pas assez sur cette question sociale? Est-ce que ce n'est pas à elles de dicter les règles?
Il y a une première chose qu'il faut se rappeler, c'est que la Commission, a priori, n'a pas d'autorité en matière sociale. Ce sont les États qui décident, sauf dans certains domaines où effectivement la Commission peut imposer, par exemple la Commission peut imposer l'égalité homme-femme, mais elle peut pas aller en détail. Et,
donc pour l'instant, on n'est qu'aux déclarations de bonnes intentions.
On est dans des déclarations de bonnes intentions, et ce serait dangereux que la Commission puisse aller plus loin, puisque, par exemple, malheureusement, la Commission a tendance à promouvoir la retraite par capitalisation au détriment, parfois, de la retraite par répartition. Elle a tendance à privilégier la flexibilité du marché du travail, et donc il est normal qu'il y ait un partage des rôles. La Commission dit certaines choses, et puis c'est au peuple de décider quand même.
André Sapir, comment est-ce qu'on peut exiger que les États membres mettent en place un modèle social dans chaque État concerné ?
Donc chacun a un modèle social. Donc tous les États membres ont leur modèle social.
Par exemple, l'idée d'un revenu minimum, c'était une des propositions du socle européen des droits sociaux de Jean-Claude Juncker. Comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer ? Comment est-ce que chaque État membre pourrait appliquer cette proposition ?
Je ne pense pas qu'il y ait un État membre qui n'a pas un revenu minimum. Ici, le revenu minimum, c'est pas un salaire minimum, n'est-ce pas ? C'est un filet. C'est un filet de sécurité. C'est ça qui est entendu par le document tel qu'il est ici. On parle pas vous savez bien que dans un certain nombre de pays, y compris dans certains pays scandinaves, il n'y a pas de salaire minimum. L'Allemagne a aujourd'hui un salaire minimum. Tous les pays n'ont pas un salaire minimum. Donc il n'est pas ici prévu qu'il y ait, dans ces 20 points, il n'est pas prévu qu'il y ait un salaire minimum. Ce qui est prévu, c'est qu'il y ait un revenu minimum. Donc c'est le filet de sécurité. Je pense que ça existe dans tous les pays. Mais je pense que, en fin de compte, ce document, à mon sens, l'impact le plus important qu'il pourrait avoir, c'est sur les institutions européennes, c'est sur la Commission. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ses recommandations. C'est un document qui émane de la Commission, c'est vrai, c'est la Commission qui a pris cette initiative avec le gouvernement suédois. C'est pas par hasard que ce sommet a eu lieu en Suède. Et quand on lit le document, on voit bien quand même qu'il y a une inspiration scandinave à certains endroits, ce qui est bien, puisque quand même on sait que les pays scandinaves sont, je dirais, les plus performants en termes de modèle social, sont les plus avancés. Donc je pense que c'est bien qu'il y ait cette inspiration. Je pense que ce qui va se passer potentiellement, c'est que la Commission, à nouveau, dans ses recommandations, et on parle bien de recommandations, pas d'imposition, mais dans ses recommandations aux États membres, elle va devoir elle-même tenir compte de ce document. Donc ce n'est pas uniquement un document, me semble-t-il, qui s'adresse au gouvernement et qui enjoint les gouvernements de respecter un certain nombre de principes. C'est aussi quelque chose qui engage la Commission elle-même dans ses relations avec les États membres lorsque la Commission fait des recommandations. Et on a parlé tout à l'heure du cas de la Grèce, on a parlé d'autres pays. C'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de dérives. Je pense qu'il faut le reconnaître. Et en quelque sorte, on peut voir ce document, en partie, on peut le lire comme une espèce de mea culpa de la Commission qui a été peut-être trop loin durant la crise et qui veut corriger le tir.
Henri Sterdignac, est-ce que, voilà, André Sapir évoquait la Scandinavie, est-ce que ça reste aujourd'hui un modèle social, les pays scandinaves, parce que à plusieurs reprises, par exemple, la Suède a bloqué des propositions d'harmonisation sur le plan social.
Il y a
un paradoxe.
Il y a deux problèmes différents. Le premier problème, c'est que chaque pays, comme on l'a dit, a son modèle et que dans les pays scandinaves, on est plus attaché à l'autonomie des négociations, des partenaires sociaux et donc des négociations de branches ou d'entreprises. Et donc, on n'est pas très attaché à l'idée de normes nationales. Par exemple, pour le salaire minimum, on préfère des normes par branche plutôt que des normes nationales. Et par ailleurs, il faut dire qu'il y a une dégradation de la situation des pays scandinaves, en particulier de la Suède. La Suède était le pays où les inégalités de revenus étaient le plus faibles en 95. C'est plus le cas aujourd'hui, où les inégalités de revenus en Suède, maintenant, sont supérieures à ce qu'elles sont en France. Et donc, il y a une dégradation quand même du modèle scandinave. Et là, bon, j'espère quand même il va y avoir un arrêt de cette dégradation du modèle scandinave. Mais quand vous regardez le document sur les 20 points, il y a très très peu de points précisément chiffrés. Il y a beaucoup de déclarations un peu vagues, on ne dit pas clairement quel doit être le montant du, du salaire minimum par rapport au salaire médian. On ne dit pas nettement ce que doit être le montant du revenu minimum. Et puis aussi, il y a eu l'influence du patronat qui quand même est intervenu. Hein, par exemple, on apprend que les prestations chômage ne doivent pas dissuader un retour rapide à l'emploi. Évidemment, c'est le patronat qui a mis sa petite phrase.
Donc un peu de flou selon vous hein, dans ce socle européen des droits sociaux donc présenté ce vendredi à Göteborg. Est-ce que finalement le premier acte d'une Europe sociale est pas intervenu un peu plus tôt avec la réforme du travail détaché portée par le président français Emmanuel Macron, selon vous?
La question de l'Europe sociale, vous savez, elle est sur le tapis depuis très longtemps. Macron a fait un petit coup publicitaire sur le travail détaché, qui vraiment est un tout petit point. Hein, je veux dire, à partir du moment où il y a la libre circulation des travailleurs, des capitaux, des marchandises et des services, 95% de la concurrence se fait par simplement des Portugais ou des Roumains qui viennent travailler en France ou qui travaillent en Roumanie pour importer en France. La question des travailleurs détachés est tout à fait marginale.
André Sapir, la réforme des travailleurs détachés, coup de pub d'Emmanuel Macron ou vraie avancée sociale selon vous?
Je pense que c'est vrai que les travailleurs détachés représentent une toute petite partie de la mobilité des travailleurs et puis de la mobilité des capitaux, des biens et des services. Mais elle est quand même un irritant par rapport aux, disons, les abus dans le domaine des travailleurs détachés, parce que je crois que c'est surtout de ça qu'il s'agit. C'est pas de mettre en cause le principe, et je pense pas que le président Macron a mis en cause le principe des travailleurs détachés, mais c'est vrai que la manière dont le système fonctionne est plein d'abus. Et on parle surtout de certains secteurs. Donc même si de manière macroéconomique ça ne représente pas grand-chose, dans deux, trois secteurs, la construction et disons le transport routier en particulier, là, c'est un phénomène qui n'est pas négligeable et qui crée des conflits certainement et qui est perçu en France, mais dans mon pays en Belgique, en Allemagne également et en Suède d'ailleurs, est perçu comme une situation vraiment de dumping social pour utiliser l'expression habituelle. Donc je pense que c'est effectivement, il y avait une nécessité d'aborder cette question. Alors c'est vrai que ça ne va pas changer la configuration du marché du travail en France ou en Allemagne ou en Belgique, mais dans le segment concerné, construction et transport routier, je crois que ça peut avoir un effet et un effet bénéfique.
Dernière question, Henri Sterdignac, et on peut s'appuyer justement sur l'exemple de la réforme des travailleurs détachés. Emmanuel Macron, ce vendredi à Göteborg, a défendu un modèle social basé sur le consensus, servir à l'harmonisation qu'on évoquait en début de cette émission. Est-ce possible le consensus entre États membres sur cette question sociale?
Le consensus est très difficile à obtenir, hein. Notamment, il n'y a pas que la question sociale, la question fiscale. Les États ont des intérêts différents. Hein. On a des États qui pratiquent du dumping fiscal, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas. On a des États qui, tout à fait naturellement, les pays de l'Est, qui sont amenés à faire du dumping social, qui bénéficient, si on peut dire, du fait qu'ils ont actuellement des bas salaires et des taux de cotisation relativement faibles. Et donc, c'est difficile d'avancer, mais là, quand même, il faut être un peu optimiste avec ce socle. Il y a quand même un élément qui va dans le bon sens, surtout qu'en même temps, il y a tout un tableau de bord social qui est établi, qui va permettre de vérifier année après année que ça va dans le bon sens. Donc c'est un processus qui est quand même favorable.
Et on suivra bien sûr l'évolution de ce socle social, donc pour permettre davantage d'avancées sociales pour les pays de l'UE. Merci Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, co-auteur de l'ouvrage « Faut-il une Europe plus sociale ?» aux éditions La Documentation Française. Merci André Sapir, vous étiez en ligne de Bruxelles, chercheur à l'Institut Bruegel, professeur d'économie européenne à l'Université Libre de Bruxelles. Merci à Arthur Tossou pour la préparation de ce débat, à Claude Battista pour sa réalisation. Restez à l'écoute de RFI dans 30 secondes, le retour de l'info.